Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis un monstre. Patrice Carton, né à Grigny, 20-03-79. Enfin, même pas, né à Paris 18e, Pigalle, Paris 18e. On vous a débarqué sur un quartier qui s'appelait la Grande Borne. Enfance difficile, dans un quartier difficile, on s'en rendait pas compte. Victime de harcèlement, ça on peut en parler, après devenu un guerrier. Un chien de la casse, qui l'a jamais la faire. En fait, je suis un chien de la galette. Je suis capable de tout du jour au lendemain pour arriver à mes fins. C'est-à-dire, j'étais devenu un mercenaire, capable d'aller affronter n'importe qui, n'importe où, n'importe quand pour gagner ma vie. Jusqu'à 14-15 ans, j'étais sous calmant, moi, à l'âge de 6 ans, 8 ans. J'avais des grosses difficultés et je me suis fait harceler. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les jeux vidéo. Et avant la lecture, pourquoi j'ai arrêté? Parce que, connerie de la vie, j'aurais dû continuer. J'ai même gagné un truc, ma femme, elle n'y croit pas. Heureusement qu'il y a des preuves, j'ai gagné un truc, un concours qui s'appelait Fureur de lire. Puis après, je ne sais pas pourquoi j'ai... Ça, c'est plus tard, mais j'ai commencé à lire plein de petits romans, etc. Et malheureusement, j'ai touché la Nintendo. Ah, une autre façon de s'évader qui ne sert strictement à rien dans la vie. Bref, j'arrive à peine en 6e. C'est toi, Carteron, parce que j'étais grand mais maigre. Donc, c'était un beau trophée, quoi. Le mec, il veut me prendre ma trousse qui disparaît. Après, l'autre, ramène-moi des paquets de gâteaux. Mais j'avais pas de paquets de gâteaux pour moi-même, donc moi, je vais faire pour le ramener. Jusqu'au jour où il y en a un qui m'a dit, ramène le paquet de gâteaux, et j'ai pas, et m'a mis une droite dans l'œil. Et là, j'ai craqué. J'ai explosé. Je me suis pas laissé faire. J'ai dit, jamais plus de ma vie, je me laisse faire. Jamais plus de ma vie. Fait aller à l'école, c'était un calvaire. Faites un calvaire. J'arrivais, j'ai boule au ventre, je pense, putain, j'en ai marre. Est-ce que je vais me prendre, j'ai une balayette? Est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça devient un calvaire. Franchement, ça devient un calvaire. Donc, moi, j'en pouvais plus. Je disais rien, mais c'était vraiment le cœur qui bat très fort à chaque fois.
Le début de la boxe.
J'avais une pression des parents qui faisait que j'avais plus le choix, donc j'étais obligé de réfréner, mais de rester calme, etc., etc. Donc les gens ont pris ça pour de la faiblesse. Sauf que j'ai toujours été une boule de nerf. Et quand j'explose, j'explosais pour de vrai. Donc j'explosais, mais j'avais pas la force. Donc j'ai dit, ok, pas de problème. J'ai vu qu'il y avait, c'était à l'époque où il y avait Jean-Claude Van Damme, là, kickboxer. J'ai regardé ça à la télé. Et à ce moment-là, j'ai vu un Asiatique qui arrivait dans le quartier. Un entraîneur qui s'appelle Neil Harwin. Ah, papa, il est décédé. Et je vais là-bas, puis j'ose pas rentrer, hein, parce que là, il y a toute la racaille qui me tapait dessus. Elle me dit, ah, Carteron, tu veux t'entraîner ici? Dis, tu veux te venger ou quoi? Je dis, non, t'inquiète. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris, je me suis entraîné là-bas. Et là, mes problèmes sont soudain évanouis dans la nature. Tout le monde est devenu mon ami, etc., parce qu'ils ont vu que j'ai progressé assez rapidement. Alors que j'y allais avec la boule au ventre, hein. Je voulais absolument pas boxer. Quand je suis allé là-dedans, j'étais désespéré à chaque entraînement, mais désespéré, hein. Boule au ventre, panique. À un moment donné, même, ils m'avaient tellement tapé dessus que je suis parti, je venais plus dans la salle pendant 3 mois, je me mettais par la fenêtre pour regarder. Après, il dit, vas-y, j'y retourne. Puis après, d'un coup, j'ai progressé, je frappais. Je me souviens, on s'entraînait dans l'appartement. C'était un appartement qu'ils avaient aménagé. Et je frappais tellement fort que le voisin, en fait, il s'apercevait pas. Il avait porté plainte contre la structure. Et il savait pas que c'était le gamin de 14 ans qui shootait tellement fort au paroi que ça faisait résonner, que le, véridique, parce que je frappe très fort les jambes, que ça a commencé à causer des problèmes. Et donc là, tout le monde, regarde, il y a un petit 14 ans. Carteron, il a une frappe de fou. Là, tout le monde, du jour au lendemain, a arrêté de faire quoi que ce soit avec moi. Je suis devenu populaire. Quand j'ai commencé à m'entraîner et à un truc. Peut-être aussi, c'était un autre environnement. D'un seul coup, on se sentait aimé, l'entraîneur vient s'occuper de moi, etc., etc. J'avais pas... inconsciemment, ça s'est fait tout seul. J'avais pas envie d'harceler qui que ce soit. J'étais pas aigri avec les autres. J'avais pas envie de frapper. J'avais pas envie de rendre à quelqu'un. J'en prenais assez dans la gueule.
Papa Patrice.
Non, j'aurais rêvé d'avoir un grand frère. Quand je voyais tous avec une équipe de frères, et là, j'en rêvais. J'ai dit, putain, pourquoi j'ai pas de grand frère? Et au final, je me suis fait tout seul. Après, tous. Et c'est eux qui me suivaient tous. La bande à Patrice. Bah, après, c'était Papa Patrice qu'ils appelaient. Les gens oublient, maintenant, malheureusement, c'est pas leur génération. Il y a peut-être des parents d'aujourd'hui qui sont peut-être vivants grâce à moi, à qui j'ai sauvé la main, véridique. Hein. Quand ils avaient quelques galères, le premier qu'ils appelaient, c'était Carteron. Ils avaient tous qui appelaient. Hein. Ah, les gens ont la mémoire très très courte parfois. Par exemple, je vais vous expliquer un jour, un copain à moi qui sort devant chez moi, je le vois torse nu, j'en vois quatre dessus, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sors de chez moi, exemple, c'était comme ça, je sors de chez moi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, qui va toucher qui maintenant? Non, mais c'était des trucs comme ça, c'était vraiment, et des gens qui auraient pu se faire fumer. À plusieurs reprises, il dit, putain, bon, il y en a qui sont reconnaissants, d'autres qui ont oublié, mais il y a plein de gens qui venaient me voir, Patrice, s'il te plaît, viens m'aider. Ah ouais. Parce que j'avais, quelque part, j'étais un peu injusticier. Connerie. Bah, bon, après, je regrette pas, je l'ai fait, mais j'ai vraiment aidé beaucoup de gens. Moi, je faisais partie de la brigade des vanneurs. On passait notre temps à se vanner. En fait, ils me vannaient tous, et en fait, je récupérais leur vanne et je leur lançais le lendemain. Puis après, ça s'enchaînait, puis après, ça devient, c'est la répétition. Après, ça se vannait du matin au soir. Du matin au soir, on arrive à faire même rire les profs. C'était ça qui nous faisait plaisir. C'était faire rire tout le monde. Vanner du matin au soir. Le truc qui sert à rien, mais bon. Enfin, si, ça me sert encore aujourd'hui.
Le lycée.
Quand je suis arrivé au lycée, moi, je faisais partie du truc. Ce que j'aimais, c'était les filles. Et puis, il faut s'adapter. Pour draguer, on va pas faire le sauvage. Donc, j'avais pas une dégaine de Zoulou. Je cherchais à m'habiller très classique. Déjà, à la base, je mettais jamais de casquette à l'envers. Et puis, j'étais plus admiratif d'un mec qui avait une petite chemise, un jean et un truc qu'un mec avec son Carl Kenny. J'en ai eu un quand je sais plus si on me l'avait donné, un Bishop. J'en ai mis un dans ma vie. Après, le reste, je m'habillais chez Célio. On restait à ce qu'on aime, hein, à ce qu'on peut faire, quoi. Mais en tout cas, c'était chemise et jean. Nous, c'était, on allait les voler. C'est triste. On a fait les voleurs à un moment donné. On n'avait pas d'argent. 36-36, les Levis. On avait 4-5 jeans, des chemises. On était bien dans notre tête. On était très, très bien. L'équipe avec qui je marchais, on peut dire l'équipe, parce que c'est toujours les mêmes. Et je parle pas des petites frappes qui frappaient des petites grand-mères ou quoi que ce soit. C'est vrai que vraiment, il y en a qui ont bien tourné, qui sont devenus chauffeur de métro, de train. C'est un autre monde. Il est content. Il a un pavillon. Il dit, putain, on n'y pensait même pas, Patrice. Je dis, ouais, c'est vrai. Ou d'autres qui sont passés dans l'extrême, qui à son âme, un copain à moi qui est décédé à peu de temps. Il faisait des braquages, aucune fierté dans ça, mais c'était, il n'allait pas voler les petites vieilles. Ah, pareil, on était tous avec nos chemises et notre tenue, on était tous ensemble. On ne supportait pas la zoulouterie, ce que j'appelle la zoulouterie. On les utilisait quand on avait besoin d'eux, mais on les encaissait pas déjà petits. T'es là, voilà, on avait nos copains, et on admirait ceux qui réussissaient. En fait, on jalousait pas ceux qui réussissaient. Moi, je peux vous dire que tous ceux que j'ai gardé comme copains, etc., c'était des gens qui sont devenus profs, qui sont devenus ici, qui sont devenus du quartier. J'ai remarqué, il y avait que ça. Le mec, ils étaient pas, on marchait pas avec les aigris. J'entendais les aigris, mais bizarrement, ça m'attirait pas.
De victime à bourreau.
J'arrivais à avoir mon côté hyène avec les hyènes, mais j'étais un peu comme les autres, quoi. On réfléchit pas comme on réfléchit à 40 ans. L'autre, il m'énerve, alors je vais le taper aussi. Donne-moi ça, passe-moi des réponses, et ceci et cela. Des conneries que je regrette totalement. Même d'ailleurs, il y a une fille que j'ai rencontrée un jour, que j'ai appelée, je lui dis, elle me dit, ah, Patrice, ah, putain, est-ce qu'elle m'a envoyé un message? Elle dit, mais tu te rends compte? T'es en train de parler de ce, mais qu'est-ce que tu m'as fait à moi? Mais je dis, mais c'est vrai. Elle était choquée. Pour ça que j'allais dire le contraire. Je dis, ouais, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai. Et je m'excuse. Elle fait, non, mais, je lui dis, mais, j'étais une bavure. J'étais une merde. Elle me fait, t'as raison. Comme eux, j'étais une merde, point. D'ailleurs, si je le dis publiquement, c'est que je voulais, et c'est que je l'assumais totalement. Moi, on m'a pas posé la question. Après, enfin, un jour, on m'a appelé pour une émission. On me dit, oui, Patrice Dananine, pour l'harcèlement. Je dis, mais tu sais, moi, j'étais harceleur aussi, hein. Dis, parce que je pouvais aussi me donner le beau rôle et raconter que ce qu'il voulait me présenter comme un peu le grand frère. Je dis, mais j'étais aussi une merde. Et pour pas aussi montrer... parce que je ne voulais pas me donner... Je n'ai jamais été dans l'image. Je n'ai rien à foutre de l'image que je donne. Je peux rigoler, je peux sourire, je peux faire le zouave. Prends-moi pour ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Quand j'ai fait ça, c'était la même période où j'étais pas encore un grand champion. Hein. C'était la même période où je me faisais harceler, que j'harcelais d'autres personnes. Ça, c'était pas encore. Et quand j'ai commencé à boxer et tout ça, ah non, j'ai jamais profité de la boxe. Ah non, justement. Non, ça, c'était dans la même période, en fait. C'était la même période. Au moment où je me faisais harceler, j'harcelais les autres aussi.
L'évolution.
La confiance, elle vient avec le travail. Quand j'allais à l'entraînement et que j'allais contre mon gré à l'entraînement, parce que j'aimais pas ça, je vais là-dedans chaque jour et j'ai pas envie. Au fur et à mesure, on y va. Et après, on réfléchit plus. Et après, ça devient un automatisme. Je ne lâche pas l'affaire. Je n'abandonne pas. C'est la répétition. C'est toujours de se dire, allez, un petit pas tous les jours. C'est pas du jour en main qu'on commence à marcher. C'est petit à petit. Chaque fois, je disais, allez, j'y vais. Puis après, c'était devenu normal. Puis après, c'était 5 fois par semaine. Puis après, c'est devenu 6 jours sur 7, 2 fois par jour, jusqu'à maintenant. Non, à partir du moment où j'ai commencé à bosser, au bout d'un an, j'ai pris un niveau qui est exceptionnel. Hein, pour mon âge, c'était exceptionnel. Vraiment, 2 ans que tout le monde entendait parler de moi. Et moi, en fait, je m'en foutais du combat. C'était généralement juste pour moi, pour le truc. Et donc, à partir de là, j'ai fait ça, j'ai arrêté. Je m'entraînais plus. Je m'entraînais vitement en dilettante, histoire d'avoir des abdos pour être un peu beau. Pour les filles, ça s'arrêtait là. Vraiment, je m'en foutais de la boxe. Et après, j'ai repris qu'à 25 ans. Ça, c'est une autre histoire. Ah ben, quand je suis devenu boxeur, en fait, tout le monde m'aimait bien parce que je représentais le mec de la misère. Ils adorent Rocky. Mais quand Rocky commence à sortir la tête de l'eau, ça plaît plus à personne.
Le monstre patriote.
On a eu une éducation, on a eu une chance que c'était l'année 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution. Et pour cette raison, uniquement pour cette raison, ils avaient invité tous les enfants des écoles, ils nous avaient mis tous dans la même école, ils nous ont fait chanter la Marseillaise. Aux armes, citoyens, formez les bataillons, marchons, cassons, hein, pur. On était à fond dedans. Et je l'ai pas connu par le football, je l'ai connu comme ça. Et toute ma classe, c'était Bintou, Mamadou et Mohamed, hein, il y avait de tout dedans. Nous, on était dedans. Donc, c'est un hymne de guerrier. Et quand, en fait, vous le chantez, que vous savez prendre l'intonation, que vous la chantez pas, aux armes, un peu comme les footballeurs à l'ancienne. Moi, quand je la chantais, que j'arrivais au moment où je disais marchons, tu sais quoi, tu sentais que j'allais t'arracher la tête. 2012, ils mettent la Marseillaise à Évry. Je fais mon championnat du monde à Évry. Ils mettent la Marseillaise, des gens ont eu, et moi, je me colle à mon adversaire et je chante. Et chaque fois, la même chose. Quand ils voient, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit marchons, 1500 à pur, à bravo de Sion, vas-y, viens. Ça veut dire, viens, je vais t'arracher la tête. Mais en fait, les gens, ils sentaient que c'était un chant de guerrier. Et quand ils sentent l'intonation, même le pire des crapules a chanté avec moi. Il comprend les marchands. C'est pas, c'est marchands. Et tu sais que tu vas mourir avec moi. C'est toi ou moi, mon pote. Et c'est ça que j'aimais. Et puis, putain, 2014, 2015, malheureusement, il y a les attentats. Et quand il y a eu les attentats, Charlie Hebdo, etc., déjà, ça m'avait gavé. Le communautarisme que j'avais déjà ressenti dans la boxe, que j'avais déjà ressenti que ce dont je parlais pendant des années, et ça posait problème à personne. Mais là, c'était devenu grave. Du communautarisme est devenu la haine, de cette haine gratuite est venu l'assassinat de mecs comme Kabu que je regardais à la télé dans le club Dorothée, parce que j'étais un enfant du club Dorothée. Il dit, mais on va pas buter ce mec-là parce qu'il a dit, je suis pas Charlie, et que je voyais que certains, j'arrivais pas à leur faire entendre raison. Je dis, mais attends, mais bien sûr que je ne valide pas le fait qu'on insulte une religion, il n'y a pas de souci, mais on tue pas ce mec-là pour ça. D'accord? Parce qu'ils ont fait des dessins. Non, mais c'est là que j'ai compris, c'est bon, on est passé à autre chose. On est passé à un autre niveau. Et je parle plus avec vous, vous êtes tous de la merde. Vous êtes tous de la merde. En fait, là, je me suis auto, écarté de beaucoup de gens. J'ai dit, vous êtes de la merde. Moi, en fait, je vais pas parler avec vous. Vous êtes de la merde. 6 mois plus tard, malheureusement, il y a eu encore le Bataclan. Là, ça a bombardé tout le monde, là. Noir arabe, tout ce qui s'ensuit, qui se font éclater, là. Et 130 morts. Et ça crie. Et ça alarme. Et là, tout le monde commence à mettre des bleus, blancs, rouges sur le côté. Et là, je dis, bande de retourneurs de veste. Comme par hasard, là. J'organisais mes événements. Comme aussi de ma mentalité, j'en avais marre de la victimisation, de dire que c'est de la faute de ci, de ça, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, de racisme. Hein. J'ai eu un président de fédération qui a dit un jour, pour un gala où je devais boxer dans un événement au Japon, et le mec, il dit à une copine à moi, qui est ouverte, qui parle comme moi, qui aime pas tout le monde, elle est comme moi. Et un jour, elle m'appelle, elle me fait, Sophie qui est décédée. Elle me dit, Patrice, tu sais ce qu'il a dit le président de la fédé? Non. Il a dit parce que j'avais mis KO un Français, un autre concurrent à moi, blanc. Je vais le traduire. Et en fait, ils ont voulu le placer sur un grand tournoi à 400 000, alors moi, que j'avais rencontré le patron qui savait que c'était moi le numéro 1. Et la personne lui a dit, mais pourquoi t'as pas appelé Carton ? Elle a dit, mais Carton, il n'est pas français, il ne représente pas notre pays. Mais au lieu de m'en prendre à toute la terre et dire, nanana, lui, je l'ai étranglé, je l'ai menacé devant 1000 personnes. Je l'ai menacé, je lui ai fait un truc de fou devant 1000 personnes. Tout le monde le sait, hein, c'était en 2011. Je dis, maintenant, je suis français ou je ne suis pas français ? Ton famille, il est dit, sors d'où, toi ? Toi, tu vas m'apprendre c'est quoi la France, toi ? Les dentiers sont français avant les Savoyards. Toi, ton nom de famille, il est de quelle origine ? Zigane, il sort d'où ? Non, j'ai jamais dit ça, monsieur Carton, j'ai jamais dit ça. Répète encore un truc comme ça, je t'arrache la tête. Depuis, on est devenus des amis. Et après, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas, on veut pas de moi, je vais faire mes événements par moi-même. Je vais faire mes choses et je vais arrêter de me victimiser. Mais putain, quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai fait mes affaires par moi-même, il n'y a personne qui m'a empêché de faire mes affaires. Des blancs qui m'ont aidé, des juifs, des arabes, des ceci et cela. Et putain, j'ai fait 3 événements et j'organise à la Halle Carpentier à Paris. Et là, moi, je suis toujours pris par mes convictions. Ça veut dire que quand il a dit je suis Charlie et je vous emmerde, moi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire ouais, Carton, c'est un vendu, il lèche le cul aux juifs, il lèche le cul à ceci, il lèche le cul à personne, moi. Simplement, c'est comme ça, je pense comme ça et allez vous faire foutre. Et là, du jour au lendemain, Là, quand ils m'ont reposé la question, ils viennent me voir pour la boxe. Et l'autre, il me parle, il me dit, Arnaud Romera, il me parle de ça. Je dis, mais j'en ai rien. Mais c'est pas normal. Mais qu'ils aillent tous se faire foutre. Mais qu'on arrête de dire que si, en banlieue, les gens ne chantent pas la Marseillaise. Qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Qu'ils arrêtent de mettre en avant. Attends, j'ai pris mes élèves. Je dis, venez ici, je les mets tous là. Venez chanter la Marseillaise avec moi. Dépêchez-vous, mettez derrière. Et je mettais derrière. Chantez! Non, non! Est-ce qu'ils la connaissent pas? Mais obligation! Là, d'un coup, waouh, Carteron, waouh, là, là, ce qui se met, tatati, tatata.
La roue a tourné.
J'adore une phrase qu'avait dit de Akhenaton dans la chanson « J'ai pas de face ». Les gens aiment entendre les voix des gens qui ont clamsé. Les gens, c'est de la merde. Parce que quand ça marchait super, eh ben c'était tous des merdes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne où je vois pas Dragon Ball. Moi, mes enfants, 20 ans plus tard, soi-disant, c'était ceci, c'était cela. Les politiques, ils étaient là. Ouais, il y a trop de sang. Je le vois même la version avec du sang maintenant. Alors qu'on l'avait même pas. Donc, arrêtons le baratin. C'est juste de la jalousie, de la haine. Parce que ce que j'ai fait, c'est exceptionnel. Mais pourquoi ? Parce que j'étais pas concentré sur la gloriole. Et comme j'étais pas concentré sur la gloriole, en fait, je m'en tapais de ce que vous dites. Moi, ce que je regardais, c'était coût-bénéfice. Et ce qui leur faisait très, très mal, c'est que moi, en ayant compris d'arrêter de me victimiser, j'ai pris mes salles moi-même, j'ai organisé mes événements avec mon seul associé. On était deux pour tout organiser. Dans le vestiaire, j'étais encore avec mon portable à me poser la question, est-ce que les gens sont bien assis, à augmenter, mettre de la sécurité, est-ce ceci et cela, à vérifier tout. Et ça leur fait, et j'ai réussi à remplir toutes les salles que aucun boxeur, même avec les médias qui font des pataquets sur le gala d'un tel, un tel, n'ont jamais fait ce que j'ai fait. Prendre Bercy, c'est jamais arrivé. Un mec comme moi, à la sortie de ma banlieue, alors preuve que rien n'est impossible en France. Personne ne m'a empêché de prendre Bercy. Personne ne m'a empêché de prendre la Halle Carpentier. Et ça leur fait très très mal. Et aujourd'hui, ils parlent parce que ce qu'ils auraient voulu, c'est bénéficier de mon travail. L'organisateur, là, ces merdes qui faisaient tout et n'importe quoi, ils ont mal à la tête parce que leurs salles, elles sont vides. Tous les événements bidons, ils marchent pas. Vous pouvez voir tous les événements, je vais écorcher leur nom exprès, Golden Connery ou quoi que ce soit, 200 personnes, 300, 200, 200, et ça leur fait mal. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un mec qui est arrivé, qui a décidé qui a compris que c'était pas en étant salarié, qu'on peut y arriver. Eh ben ouais, faut prendre ça. J'ai décidé de faire mes affaires, ça les fait chier. Mais vous savez, et jusqu'au bout, ils ont essayé de me... C'est marrant, à l'époque, ils disaient, on boycottait, on voulait pas me faire boxer, et à la fin, on criait parce que je venais pas boxer chez eux. Ah, parce que le patron de Carrefour, il va aller travailler chez Lidl, donc je suis pas le patron de Carrefour. Et ça leur faisait mal, ça leur faisait très très mal. Mais jusqu'au bout, j'ai tenu parce que moi, j'avais pas besoin de montrer ma gloriole, j'avais besoin de gagner. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que j'ai gagné en argent ou perdu, vous n'avez rien gagné sur ma tête.
Le conseil.
En fait, il faut jamais céder. En fait, je dirais direct, l'erreur c'est de se laisser faire. Faut jamais se laisser faire. Dès que j'ai compris qu'il fallait plus se laisser faire, c'était terminé. terminé. Il n'y a pas ouais de taille de ceci, c'est pas vrai, c'est des excuses. Parce que moi, j'étais le plus maigre, j'étais pas le plus costaud. Il y avait des mecs, on est dans un collège de cassos, hein, il y a beaucoup de cassociaux. Il y avait des mecs qui venaient tous les pays en guerre, là, qui arrivaient en France, etc. Des mecs qui avaient officiellement 13 ans, qui avaient 18 ans au bled, hein. D'accord? Donc il y avait le dessus sur nous. Donc ils étaient bien plus costauds, mais bien plus costauds que nous. Et du jour au lendemain, j'ai dit, c'est pas parce que j'ai pas gagné, hein. Mais du jour au lendemain, j'ai dit, je vais jamais céder. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. En fait, à un moment donné, il faut se déclencher, dire c'est mort, c'est mort. Si t'as une batte, je prendrai une hache. Je lâcherai pas. C'est vraiment une façon de penser. C'est à un moment donné, se dire stop. C'est soit ça, soit je me laisse mourir. Je me laisserai pas mourir. En fait, c'est ça. Et dès que j'ai eu cette mentalité, bah, ça m'a suivi toute ma vie. En fait, que tu m'insultes, qu'on me dise quoi que ce soit, ou quoi que ce soit, quand moi je décide quelque chose, c'est mort. En fait, il faut me tuer. C'est mort. Il peut m'arriver quoi que ce soit, c'est mort. Je m'appelle Patrice. J'ai 40 ans. Footeur de merde professionnel. J'emmerde la boxe thaï. Merci pour ce qu'elle m'a donné financièrement. J'ai réussi à monter un petit peu l'ascenseur social en restant humble. Je roule pas en grosse voiture et je dis aux autres, ne faites pas du sport pour vous faire aimer. Faites ça pour essayer de vous en sortir. Trouver une manière de vous en sortir, que ça soit de passer un balai, passer le bien. Quoi que vous fassiez, si vous faites bien, vous pourrez faire quelque chose. Croyez-moi, je ne suis pas le plus à plaindre, mais peut-être que demain, je peux tomber. Donc, restez humble, gardez les pieds sur terre. Ne faites pas, et comme dirait l'autre, ne faites pas que le chômage vous fasse devenir rappeur.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.